bienvenue dans le Pitch par Shareable, l'émission qui vous plonge dans l'univers passionnant des startups et des levées de fonds. Ici, nous donnons la parole aux entrepreneurs les plus inspirants et innovants pour qu'ils nous présentent leurs projets, leurs visions et leurs ambitions. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également à la rencontre des investisseurs et des fonds qui les accompagnent pour comprendre les enjeux et les défis de l'écosystème startup. Alors, êtes-vous prêt à écouter les histoires captivantes de ceux qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mégane Seguin, co-animatrice de cette émission. Bonjour Mégane.
Salut Joseph.
Aujourd'hui, on est sur un format un peu spécial. Dans cet épisode, on va passer de l'autre côté du miroir et on va parler avec un investisseur, ou plutôt un super investisseur. On a l'honneur d'accueillir Corentin Orsini, co-fondateur du fonds d'investissement Super Capital. Bonjour Corentin.
Bonjour, merci pour le super, c'est très bien, c'est notre marque de fabrique.
Eh ben, c'est ce que j'avais compris, donc bienvenue à toi.
Merci Corentin d'être avec nous et on a hâte de pouvoir parler de ton parcours atypique. On va plonger donc pendant 30 minutes dans ta tête pour comprendre comment résonne un investisseur en 2023. Tu sélectionnes les dossiers, tu les accompagnes, on aimerait savoir quels sont tes critères de réussite. Bref, on veut rentrer dans ta tête pour que nos entrepreneurs puissent mieux te parler et mieux te convaincre. On va aussi parler des tendances actuelles sur le marché des startups en France et des conseils que tu peux éventuellement leur donner à ces entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds. Est-ce que ça te va ?
Ça me va parfaitement.
Alors c'est parti, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours qu'on sait très atypique ?
Oui, je m'appelle Corentin Orsini. Donc Orsini, c'est Corse, mais j'ai jamais mis les pieds en Corse, mais quand même, ma famille est originaire de Corse. Et j'ai 38 ans, bientôt 39, j'habite près de Lille et j'ai une boîte qui s'appelle Super Capital et dont les équipes sont basées à Paris. Donc je fais un peu la navette entre les deux, je suis 2 ou 3 jours par semaine à Paris et le reste du temps à Lille. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai toujours eu un fil rouge dans ma carrière, c'est l'innovation, la tech, l'entrepreneuriat. Et ces sujets, je les ai traités sous différentes formes. Une forme journalistique au début, une forme ensuite plutôt banquier d'affaires, et puis effectivement une forme plutôt aujourd'hui investisseur, comme tu l'as dit. Et aussi, j'ai créé quelques petites boîtes. En fait, j'ai effectivement pas une carrière linéaire, mais j'ai quand même toujours ce fil rouge de l'innovation, l'entrepreneuriat, créer de la valeur et faire des choses nouvelles.
Et du coup, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais être VC ?
C'est une bonne question. À quel moment je me suis dit ça ? Je me suis intéressé au VC, donc au Venture Capital, Capital Risk, à l'investissement très tôt, c'est-à-dire en 2005-6. Donc 2005, c'est marrant parce qu'en France, personne ne savait ce que c'était un VC. Mais en Californie, Y Combinator est créé en 2005. Et donc, l'écosystème là-bas, il existait. Et en fait, j'ai eu la chance de le voir et de le côtoyer d'assez près, puisque j'étais journaliste donc tech et SVM Mac, Sciences et Vie Micro, où j'allais régulièrement à l'étranger, et notamment dans la Silicon Valley, voir un peu ce qui se passait. Et c'est comme quand aujourd'hui, tu vas en Inde, tu vois le bouillonnement incroyable, on en a parlé, que tu vois parmi les entrepreneurs. À l'époque, c'était pareil en Californie. Et c'est toujours d'ailleurs pareil. Et donc, tout ça, je me suis dit, attends, ça, c'est génial. C'est un monde que je veux rejoindre, soit par l'entrepreneuriat. Et j'avais déjà fait 2-3 petits trucs, 2-3 petites bricoles en entrepreneuriat. Mais le VC, ça me passionnait parce que c'était différent de tout ce que j'avais vu. C'était novateur et ça mixait finance et entrepreneuriat. Et en fait, la finance, j'ai bien aimé la finance. Enfin, j'ai bien aimé plutôt l'investissement assez jeune. Tu vois, quand j'avais 12-13 ans, je m'intéressais, tu vois, un peu à la bourse, etc. Ouais, et dès que j'ai eu 3 francs 6 sous, j'ai investi un peu, j'ai participé à l'IPO de Google. Tu vois, j'avais même pas 20 ans. IPO de Mythique aussi, je me rappelle. Donc voilà, tout ça, ça m'a beaucoup attiré et intéressé, mais je me suis jamais senti légitime pour faire ça, professionnellement, clairement jamais. Jusqu'à ce que je fasse quelques années en banque d'affaires chez Chausson Finance, qui est l'une des références de la banque d'affaires en France sur la tech. Ensuite, j'ai eu quelques aventures entrepreneuriales, dont certaines fonctionnaient et d'autres non. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, attends, je sais lire un business model, lire un business plan. J'ai des expériences entrepreneuriales, certaines réussies, d'autres non. J'ai investi un petit peu en bourse, etc. Je comprends les modèles économiques. Je me dis, attends, pourquoi pas commençais à essayer de mettre des petits tickets à droite à gauche et finalement de regrouper des gens autour de moi pour investir et pour un peu professionnaliser et structurer l'investissement early stage qui, il y a 5 ans en France, n'était pas très professionnalisé.
C'est hyper intéressant, en fait. Ouais, ce fil conducteur et puis le cheminement qui t'a fait venir à Supercapital par rapport à tes affinités et aussi au domaine dans lequel tu avais des compétences.
Exactement, ouais, c'est vraiment un mix des deux. Ouais, ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est très bien, ça nous emmène sur un peu la genèse de Supercapital. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Supercapital au niveau de l'équipe, des missions qui sont les vôtres et comment vous fonctionnez, les activités étant quand même diversifiées?
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, si on parle juste de la genèse au début, donc j'étais tout seul donc il y a 5 ans, donc en 2018, comme en fait plein d'indépendants, leveurs de fonds, banquiers d'affaires, etc. Et rapidement, je me suis spécialisé sur l'early stage. Pourquoi ? D'abord parce que j'aime bien les nouvelles boîtes, les petites boîtes. Et parce que aussi, je pensais que côté entrepreneur, c'était difficile de trouver des business angels parce qu'ils étaient répartis partout, compliqués à trouver. Et côté, justement, investisseur, c'est difficile de trouver les pépites parce qu'il y en a plein partout. Le deal flow, il n'est pas structuré. Justement, les banques d'affaires, elles n'intermédient pas ces deals-là parce qu'ils sont trop petits pour elles. Donc, je me disais, il y a quand même peut-être un truc à faire, un modèle à inventer. Et donc, j'ai fait ça 2018-2019 et ça a vraiment explosé fin 2019, début 2020, où là, d'autres associés m'ont rejoint dans l'aventure, donc Fred et Thibaut dans un premier temps et un deuxième Fred un peu après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait effectivement, comme tu l'as dit, 3 activités. Première activité, donc cette activité historique de communauté de business angel où on sélectionne des deals, on les partage et nos angels investissent dedans. Ça, c'est souvent des dossiers assez jeunes, précis, ou vraiment au tout début de la monétisation. Deuxième activité, on a nos propres véhicules d'investissement qu'on lève chaque année auprès d'une centaine de chefs d'entreprise qui mettent des tickets chez nous entre 20K et 3 ou 400K chacun. Et donc cet argent-là, les 5 ou 6 millions qu'on lève chaque année, on les investit dans une soixantaine de sociétés early stage tech en France et à l'international, un peu comme Kima pour tous ceux qui connaissent. Et la troisième activité, c'est une activité de levée de dette qu'on appelle Supercapital Leverage. Leverage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire levier sur le capital, sur l'equity, pour aller chercher de la dette. Et donc, précisément, c'est Frédéric Beck, chez nous, qui s'occupe de ça, dont d'ailleurs, vous pouvez écouter l'histoire dans l'un de mes podcasts qui s'appelle Autodidacte. Il est complètement autodidacte. Et il est extrêmement fort sur cette partie dette. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va aider l'entrepreneur à pré-mâcher le travail pour le banquier, aller voir le bon banquier dans la bonne banque au bon moment et savoir parler son langage et faire s'asseoir autour d'une table à la fois les banquiers et les investisseurs en capital, mais aussi plusieurs banquiers qui vont partager le risque. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui chez Supercapital.
Moi, le ressenti que j'ai, c'est que c'est vraiment le chaînon manquant, enfin qui était manquant jusqu'à présent, dans l'investissement, dans le financement des boîtes early stage en France. Pour avoir été entrepreneur sur la période que tu mentionnes et un peu avant, c'est clair que c'était assez compliqué de trouver et des réseaux de business angels et des fonds d'investissement pré-seed, là où maintenant j'ai l'impression que ton accompagnement chez Supercapital il est finalement assez complet, assez global.
Ouais, tout à fait. Alors en fait on a l'habitude de dire maintenant qu'on fait du 360, du financement à 360 degrés, un peu d'equity avec nos angels, un peu d'equity avec nous-mêmes, nos véhicules, un peu de dette. Et en plus, de plus en plus, on a des gens dans l'écosystème qui ont fait des choses un peu similaires à ce qu'on fait, et donc c'est très bien parce que je pense que ça manquait. Si on regarde aux US, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fonds early stage qui existent et des super angels, etc. En France, on était peut-être un petit peu en retard sur cette partie early. On a un petit peu rattrapé le retard, pas encore complètement, hein, mais je pense que ces dernières années ont été assez structurantes pour la décennie à venir. Et si on regarde en fait ce qui s'est passé aux US ces 10-15 dernières années sur l'early stage, j'espère qu'il va se passer la même chose sur l'Europe. On a par exemple de beaux véhicules constitués et puis de plus en plus d'outils justement et de services qui aident à fluidifier les opérations. Bah, Shareable évidemment en est un exemple, mais il y en a plein d'autres. C'est ça un vrai écosystème en fait.
Voilà la question que j'ai envie de te poser pour reculer peut-être de quelques pas et essayer d'entrer dans ta tête, hein, comme Megan l'a introduit. C'est comment tu fonctionnes en tant qu'investisseur? Déjà, quel compte tu as à rendre? Tu investis l'argent de qui? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu attends en retour?
Bien sûr. Nous, on a fait le choix. En fait, si tu veux, quand tu investis, tu as le choix soit d'investir ton propre argent. Alors, il se trouve que je ne suis pas héritier multimilliardaire, donc Hélas, je n'ai pas beaucoup d'argent à investir, donc en tout cas, j'ai pas des millions à investir chaque année, ça c'est sûr. Donc effectivement, bah ton choix, c'est d'aller lever cet argent. Soit tu décides, comme la majorité, grande majorité du marché, d'aller voir des investisseurs institutionnels, donc des banques, des assureurs, des corporates, des grosses boîtes, éventuellement des très grosses familles, très gros family office très, très structurés. Et là, on parle de tickets de dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros, pour des fonds totaux de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros. De dollars qui sont investis, qui sont des fonds régulés, qui sont investis selon une thèse particulière, etc. Nous, on a choisi de pas aller dans cet univers-là. Ça ne veut pas dire qu'on ira jamais, on ira peut-être. Mais aujourd'hui, on a choisi de démarrer un peu plus petit et avec des gens qu'on connaît mieux et qui sont plus proches de nous, qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, soit qui ont vendu leur boîte et qui ont récupéré quelques millions d'euros qu'ils doivent réinvestir, soit des gens qui ont une boîte qu'ils n'ont pas encore vendue, mais qui fonctionne suffisamment bien, qui produit suffisamment de cash flow pour pouvoir réinvestir pas mal chaque année. Et donc ça, c'est nos deux personas. Troisième persona, c'est aussi quelques cadres de l'industrie financière, quelques top managers de corporate. Et donc ces gens-là, bah, ils mettent des tickets entre 20K et 300K à peu près chez nous chaque année. Et donc, c'est une manière pour eux d'investir dans des startups, mais de manière diversifiée. C'est-à-dire que s'ils investissent dans un véhicule chez nous, ils investissent dans 60 boîtes. Et comme vous le savez, surtout sur l'early stage, il faut absolument ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc être diversifié. Et c'est ce qu'on leur propose, selon des maturités un petit peu différentes et des pays différents. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. On va chercher l'argent auprès des entrepreneurs. On investit nous-mêmes chez des entrepreneurs, souvent un peu plus jeunes. Et là où le cercle est très vertueux, c'est que ces entrepreneurs jeunes, une fois qu'ils ont vendu leur boîte, ils réinvestissent chez nous. Bah, pas tous, mais une bonne partie réinvestit chez nous. Donc ça, c'est génial parce que ça veut vraiment dire que le truc fonctionne et qu'il y a un vrai, encore une fois, écosystème.
Tu as dit que vous privilégiez l'investissement early stage. Donc, c'est des boîtes qui sont particulièrement difficiles à évaluer. Il n'y a pas encore forcément de traction commerciale. Le marché, le go-to-market, il n'est pas forcément mené à son terme. Donc, comment est-ce que toi, en tant qu'investisseur, en tant que VC, tu vas réussir à évaluer le potentiel de croissance d'une startup?
Ouais, c'est vraiment très très difficile, hein. C'est un peu la baguette magique du sorcier. D'abord, il y a deux catégories d'entrepreneurs, je dirais, assez différentes. Il y a c'est ce qu'on appelle les serial entrepreneurs, donc repeat entrepreneurs, serial entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont déjà monté une société auparavant, from scratch, qui l'ont développée assez brillamment, assez fortement, et qui l'ont vendu pour une somme significative, c'est-à-dire au moins plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont connu toute la chaîne de financement de zéro à la cession. Ces gens-là, quand ils viennent nous voir, on sait qu'ils savent exécuter une idée, qu'ils savent exécuter une boîte, gérer une boîte. Donc ça, c'est déjà un premier truc qu'on peut mettre de côté. On dit « Ok, ça, c'est bon, ils le valident, c'est checké. » Et ça, mine de rien, c'est très important. Ensuite, il y a évidemment la plupart des autres gens qui n'ont jamais créé de boîte ou qui ont créé des boîtes mais qui se sont plantés, qui n'ont pas réussi à la céder ou tout simplement qui sortent d'école, qui sont jeunes, enfin bon, voilà. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'on va regarder chez eux? Ben, on connaît pas leur capacité à gérer une boîte, on connaît pas leur capacité à exécuter des idées. Donc, on va essayer de voir un petit peu des indices. Ces indices, c'est quoi? C'est justement, tu disais, est-ce qu'il y a un petit début de traction commerciale? Et est-ce que cette traction commerciale, ils sont complètement noyés par cette traction commerciale ou est-ce qu'ils arrivent à l'organiser correctement avec des process, des équipes qui vont bien, etc. Premier élément. Deuxième élément, c'est est-ce que ce qu'ils nous racontent, ce qu'elles nous racontent, c'est clair? Ça, ça paraît concret, solide. Est-ce qu'on a envie de les suivre? Est-ce qu'on pense que cette personne-là, elle va aller très loin, qu'elle va pouvoir agréger autour d'elle les meilleurs talents et aussi bien en interne qu'en externe, les partenaires? Et agréger aussi des investisseurs. Ce qui fait beaucoup la différence, je pense, entre un entrepreneur lambda et un entrepreneur très bon qui va aller très loin, c'est forcément un degré d'ambition, d'accord ? Mais c'est aussi arriver à s'entourer des meilleurs et des gens généralement plus forts que soi-même, plus forts que l'entrepreneur lui-même, qui vont le porter. Et en fait, je pense que les meilleurs, ce sont ceux qui savent ce sur quoi ils sont bons et ce sur quoi ils sont moins bons et qu'ils arrivent à trouver des gens meilleurs sur les zones où ils sont moins bons. Et là, je pense qu'on a une équipe complémentaire, solide, efficace et évidemment sur un business model bon, quoi qu'il peut encore un peu pivoter et changer, c'est pas trop grave. Un marché quand même assez important ou en croissance. Bon, voilà. Mais tout ça, finalement, c'est assez simple en fait à mesurer. Ce qui n'est pas simple, c'est leur capacité d'exécution, leur résilience et aussi est-ce qu'ils ne vont pas céder rapidement et facilement à la tentation de la cession rapide. Tu vois, par exemple, si on investit dans une boîte sur une valo de, je sais pas, 3-4 millions, qui aujourd'hui n'est une valo pas très élevée, enfin avec une valo normale, on va dire, dans l'early stage. Mais c'est une valo, en vrai, pas la valeur, la vraie valeur de la boîte, en vrai. C'est une valo un peu fictive, artificielle. Et deux ans après, si l'entrepreneur s'est bien débrouillé et qu'il a sur la table un chèque d'un acquéreur de 4 ou 5 millions, bah c'est quand même difficile de refuser ce chèque-là, surtout quand tu es jeune, tu vois. Et s'il va vendre sa boîte 4 millions et qu'on est arrivé sur une valo de 5 millions, bah nous, on va perdre de l'argent. Lui, il va en gagner, nous, on va en perdre. Donc, parfois, les entrepreneurs, ils ne se rendent pas trop compte que les investisseurs, bah, d'abord, un, ils sont là pour gagner de l'argent quand même, hein. Même si on perd beaucoup d'argent sur beaucoup de tickets et qu'on gagne juste de l'argent sur quelques gros tickets, enfin quelques boîtes qui vont réussir super bien, bah, il faut quand même se rappeler qu'à la fin, il faut qu'on gagne de l'argent et il faut se rappeler qu'on rentre sur des valos qui sont artificiels et que ces valos artificiels, il faut les rattraper après avec le travail du fondateur.
Il y a quelque chose de super intéressant dans ta réponse, c'est que en fait, on te demande comment tu évalues le potentiel de croissance d'une boîte. Et tu nous réponds que c'est surtout l'humain, surtout l'entrepreneur qui est derrière qui va compter. Ça, c'est assez riche comme enseignement.
C'est clair que c'est vraiment clé. C'est vraiment ça. C'est l'entrepreneur, l'équipe, l'humain. Et tu vois, il y a aussi parfois des petits indices comme ça, des petits, comment on appelle ça, des signaux faibles. Tu sais, parfois tu vous rencontres un entrepreneur qui parle hyper vite, il parle comme une fusée. Donc ça peut vouloir dire qu'il est passionné par son sujet, mais ça peut aussi vouloir dire que ça va tellement vite dans sa tête. C'est difficile de le suivre. Et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. Mais il y a comme ça des petits signaux faibles des fois qui font dire que tiens, cette personne-là, elle sort de l'ordinaire. Tu vois. Et on a envie, en fait, on a d'abord envie, mais surtout, on a besoin dans notre métier de parier sur des gens un peu extraordinaires. Parce qu'en fait, faire une boîte de zéro à je sais pas, 100 millions, 1 milliard, c'est très, 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 très dur. Donc, il faut une personne assez exceptionnelle et des personnes assez exceptionnelles pour suivre tout ce chemin. Et même, je dirais, pour, tu vois, récemment, on a vu un serial entrepreneur qui est venu nous voir. Et ce mec-là a créé une très, très, très belle boîte. Il a amené à 120 millions de chiffre d'affaires en 6 ans, donc ce qui est quand même vachement beau. Mais il a été doublement intelligent parce qu'il a compris qu'en arrivant à 120 millions, donc la prochaine étape, c'est d'arriver au milliard, je sais pas. Il s'est dit, OK, j'ai été très bon pour passer de 0 à 120 millions. Et je pense pas être la bonne personne pour aller au-delà. Et donc, il a démissionné, en accord avec tout le monde, hein, le board, etc. Et il a trouvé un remplaçant qui a eu l'habitude d'arriver dans des boîtes déjà établies et de les scaler encore plus loin et plus fort parce que ce n'était pas le bon. Et tu vois, c'est comme le mec de Blablacar, il a fait ça aussi. Je pense que ça, c'est vraiment les gens qui ont à la fois une humilité, un réalisme et qui sont très bons sur une zone et qui savent qu'ils ont des limites sur d'autres. Et c'est normal, c'est impossible qu'on soit bon dans tout. Hein. Tu me demandes de faire une figure de gymnastique, je vais galérer. Donc ça, c'est les gens que je préfère, enfin, les entrepreneurs en tout cas que je préfère, c'est ceux qui savent sur quoi ils sont bons et sur quoi ils sont moins bons, et là-dessus, ils vont chercher les bons talents. Voilà.
Donc en fait, nous, on fait un podcast sur entrer dans ta tête, dans la tête d'un investisseur. Et toi, quand tu vois les entrepreneurs, tu essayes de rentrer dans leur tête.
Exactement.
Et finalement, ce que tu attends aussi d'un entrepreneur, bah, c'est ce que disait Joseph, c'est que l'humain est hyper important. Il y a cette exigence de l'introspection chez ces entrepreneurs, chez ces dirigeants d'entreprise, que en fait, peu de personnes dans le quotidien le font et qui pourtant est indispensable de savoir, bah, là, je sais que je suis bon. Et je peux dire que je suis bon sans paraître pour quelqu'un
Exactement,
de prétentieux.
Parce que tu l'es vraiment.
Et en revanche, comme je sais que je suis bon, je sais dire que je suis pas bon. Et ça veut dire se confronter à la réalité et être capable de se remettre en question systématiquement à chaque seconde.
Exactement, exactement. Se remettre en question, savoir déléguer évidemment, savoir s'entourer. Et après, ce que j'ai dit sur la personne qui parle très vite, etc., c'est pas du tout un le seul exemple. Je connais aussi des entrepreneurs excellents, exceptionnels, qui sont très, très, très posés, mais quand ils disent un truc, ils le font, et tu vois, ils t'exposent leur stratégie, puis tu les revois 3 mois après, ils ont fait exactement ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Tu vois, et ça, c'est des gens, en fait, qui ont à la fois une excellente vision et une excellente capacité à traduire cette vision dans des process, des organisations qu'ils vont exécuter. Ça, c'est impressionnant.
Et si on avance un petit peu dans le cheminement, donc maintenant que tu as détecté un talent ou un entrepreneur dans lequel tu as envie de miser, comment ça se passe? C'est quoi la suite?
La suite, une fois qu'on a repéré quelqu'un qu'on pense être extraordinaire et qu'on veut suivre?
Exactement.
Bah écoute, la suite, en fait, c'est finalement c'est souvent d'arriver à rentrer dans ce tour de table, à investir dans cette boîte. Parce que ces gens-là, très brillants, excellents, à part, il va y avoir beaucoup de monde autour de la table qui va se rendre compte que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel et qui va vouloir investir. Donc, il va falloir que nous, on arrive à investir dans cette boîte. Et comment est-ce qu'on va arriver à investir dans cette boîte? En amenant, certes, un peu d'argent, mais l'argent, c'est finalement pas trop le plus dur à trouver, pour ces gens-là, en tout cas. Le plus dur, c'est de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter en plus de l'argent. On va pouvoir leur apporter le poids et la qualité de notre marque en tant qu'investisseur. Ça, c'est un premier truc important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir évidemment de très bonnes relations avec nos boîtes en portefeuille. Et je pense et j'espère qu'on l'a aujourd'hui et que tous ces gens font qu'on a bonne réputation. Tu vois, juste avant ce podcast, j'étais vachement content parce que j'ai un petit jeune, 22 ans, qui est venu me voir. Il est en train de créer sa boîte. Et il m'a dit, écoute, j'étais en alternance, en apprentissage chez une des boîtes dans laquelle vous avez investi l'année dernière. J'ai vu la levée de fonds que vous avez fait, l'investissement, la valeur que vous avez apportée à cette personne-là. Et moi, le jour où j'ai créé ma boîte, c'est-à-dire là, maintenant, le premier réflexe, c'est de venir vous voir, vous. Et donc ça, c'est génial. Et ça se construit dans le temps, tu vois. Donc c'est réussir à rentrer et puis montrer à l'entrepreneur qu'on va pouvoir lui apporter de la valeur et surtout pas le bullshiter. Nous, on va certainement pas dire, et on l'a jamais dit, à un entrepreneur, nous, l'équipe de gestion, c'est-à-dire Fred, Thibault et moi, on va être hands-on, on va tous les jours venir faire ta strat et tout. Non, c'est faux, jamais. On le fait jamais. Évidemment, on répond à un coup de fil s'il y a besoin, mais non, la valeur, c'est quoi? C'est si tu veux parler à des gens de notre écosystème, qu'on te fasse des intros chez Noël Piz, donc chez nos investisseurs qui ont eux-mêmes des boîtes, qui ont eux-mêmes des contacts et tout ça, évidemment, on le fera avec grand plaisir. Et eux, ils vont pouvoir t'aider parce que c'est eux les spécialistes du marché en question. Tu vois, on a des spécialistes dans nos actionnaires de la fintech, du retail, de l'agriculture, de tout ce que tu veux, et de plein de pays. Et donc ça, c'est vraiment la richesse en fait de notre modèle, qui est un modèle un peu hybride entre un super angel et un micro VC, où en fait tu vas avoir une seule ligne à ton capital en tant qu'entrepreneur, on va être un ticket, certes relativement modeste, mais tu vas pouvoir accéder à un très gros réseau et beaucoup de compétences.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé que, justement, avec une des participations, ça se passe mal? Et si c'est le cas, comment tu as réagi?
Écoute, en fait, les moments où ça se passe mal, en fait, en réalité, c'est pas forcément si la boîte va mal ou si la boîte se plante, etc. Tu vois, récemment, on a un entrepreneur de notre portefeuille qui s'est planté et ça s'est très, très bien passé entre nous. Il est venu nous voir, il nous a expliqué, il nous a tenu au courant chaque semaine, chaque mois, et on a très bien compris. On l'a envoyé vers une solution pour vendre une partie de ses actifs, etc. Voilà, ça se passe très bien parce qu'il a très bien communiqué avec nous et je pense qu'il y a 3 chances sur 4 pour qu'on réinvestisse dans sa prochaine boîte. Même si on a perdu notre argent en investissant chez lui. A contrario, on a des gens qui ne nous ont jamais tenus au courant de rien et nous mettent tout d'un coup devant le fait accompli. Tiens, en fait, j'ai vendu l'actif de la boîte, tu vois. Et j'ai récupéré le cash pour moi, et puis vous, tant pis, vous avez rien. Tu vois, et ça, alors, heureusement, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive de temps en temps. En fait, quand c'est ça, c'est surtout un risque réputationnel, c'est-à-dire ce mec-là, jamais on réinvestira chez lui. Et évidemment, quand d'autres co-investisseurs, parce que, comme tu le sais, c'est un milieu quand même, hein, on se parle un peu tous, quand d'autres co-investisseurs nous appelleront demain pour faire un peu leur due diligence sur le gars, on leur dira, écoute, ce gars-là, non, il va pas. Parce que il va prendre ton argent, ne pas te tenir au courant de ce qu'il fait, vendre l'actif et faire n'importe quoi. Et donc c'est dommage, mais c'est la fameuse phrase une réputation, ça met une vie à construire et ça met 5 minutes à être détruit. C'est exactement ça.
Les invités qu'on reçoit dans cette émission nous parlent souvent de transparence et ils nous disent souvent que la relation entre l'entreprise, les dirigeants et leurs investisseurs, elle est vraiment cruciale, surtout quand on est en early stage. Je pense que tu en sais quelque chose. Donc là, je viens de parler des moments où ça va mal, mais c'est aussi super important dans les moments où tu cherches à construire, justement, parce que tu as besoin de leurs compétences, leurs expériences et leurs réseaux.
Bien sûr, nous, on a un modèle assez particulier où on investit dans vraiment beaucoup, beaucoup de sociétés. Donc on n'est pas forcément, on n'est pas proche de toutes nos sociétés. On est proche peut-être d'un quart de notre portefeuille. Et les 3/4, finalement, on les connaît, mais on les a rarement au téléphone. Ces boîtes-là, si elles ne nous envoient pas un reporting mensuel, on ne sait pas ce qui se passe chez elles, et c'est un peu dommage. En fait, on voit très bien que celles qui nous appellent de temps en temps, nous envoie des reportings mensuels, etc., bah en fait, on a une inclinaison un peu naturelle et humaine à pas les préférer, mais s'ils font ça et qu'un jour ils nous disent, bon, bah voilà, là j'ai besoin d'un bridge, ou j'ai besoin, je vais refaire un petit tour de table parce que machin, etc., bah on sera beaucoup plus enclin à les écouter plutôt qu'un mec, tu vois, encore un exemple, tiens. Un autre mec, notre entrepreneur, il nous envoie jamais aucun report, jamais. Et puis d'un coup, il a besoin de cash, alors il envoie, il nous met le couteau sous la gorge, il envoie une term sheet avec un bon de souscription à signer, alors qu'on ne s'était jamais engagé à réinvestir chez lui. Et il nous dit, tiens, faut signer ça, machin. Et je lui dis, bah non, je vais pas signer, on s'est rien engagé à rien, etc. Il me dit, si, signe, mais j'appellerai pas l'argent. Il dit, mais attends, je vais pas signer un truc qui m'engage à mettre de l'argent chez toi alors qu'on va certainement pas le faire. Enfin, donc voilà, il y a des extrêmes comme ça. Évidemment, ces gens-là, bah, on n'a plus confiance en eux.
Ouais, c'est la confiance, en fait.
Bien sûr.
La relation tisse la confiance pour toute la suite.
Exactement. Mais c'est en fait comme hors business, en fait. Hein. En fait, tes amis, si tu les appelles jamais, il y a un moment, tu ne seras plus ami, en fait. Hein.
Ouais, tu les appelles pas que pour le déménagement.
Quoi. Ouais.
Bah c'est hyper intéressant et vraiment là avec les podcasts et puis même tous les investisseurs avec qui on a des rendez-vous pour construire aussi cet outil hein, qui est Shareable, nous mettent sur la table ce sujet qui est de plus en plus présent et dans la tête des entrepreneurs et dans la tête des investisseurs, parce que ne pas l'avoir en tête, en fait, c'est des occasions manquées.
Exactement, t'as raison, parce qu'en fait tous les reportings, tous les touchpoints qu'on a entre entrepreneurs et investisseurs, c'est effectivement des occasions de faire du business, c'est des occasions de mettre un mec en réseau avec un autre, etc. Tu vois, une personne chez qui on a investi en seed et qui, un an ou deux après, veut commencer à faire sa série A, bah, si elle ne nous le dit pas, bah, nous, on ne va pas le savoir. Alors que si elle nous le dit, bah, on va peut-être dire, tiens, non seulement nous, on peut remettre un ticket, mais en plus de ça, peut-être qu'on connaît des banquiers d'affaires hyper forts pour aller chercher des gros tours de table. Peut-être qu'on connaît des super avocats, etc., tu vois.
Donc maintenant, si on ouvre encore un peu le champ de ce podcast, on aimerait bien parler du contexte actuel, de la conjoncture. Je sais que toi, tu es hyper alerte sur tout ce qui se passe chez nous en France, mais aussi à l'étranger. Quel est ton avis sur le contexte économique actuel ? Est-ce que tu penses qu'il est fortement ralenti ? Que ces craintes ont été exagérées à la fin de l'année 2022 ? Quelle est ta position là-dessus et qu'est-ce que tu vois au quotidien ?
Ouais, bah clairement, comme on en parlait récemment, les médias étaient très, très, très alarmistes fin 2022 sur l'économie qui allait venir en 2023. Donc, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Nous, ce qu'on observe factuellement, c'est qu'effectivement, le dernier trimestre 2022, tout était un petit peu gelé parce que le deal flow était très ralenti à l'entrée. Ça, je ne l'avais pas anticipé, tu vois. Le deal flow était ralenti à l'entrée, enfin, même vraiment divisé par 4, hein, c'était incroyable. Pourquoi ? Je pense que les entrepreneurs se sont dit, OK, ce n'est pas le bon moment pour lever de l'argent, on va repousser la levée dans 6, 9, 12 mois. Très bien. Mais de l'autre côté, le côté investisseur, les choses étaient gelées aussi, ils étaient attentistes parce qu'ils étaient frileux, ils ne savaient pas un peu comment l'économie allait tourner. Depuis début de cette année 2023, depuis le 1er janvier, ce qu'on observe, c'est que ça a beaucoup repris. À la fois, le deal flow a beaucoup repris, il est revenu à des niveaux de ce qu'on connaissait avant. Et côté investisseur, les investissements ont repris, les closings ont repris, tu ne vas pas me dire le contraire. Il y en a encore plein. Peut-être qu'il y a une certaine, un peu plus de frilosité de la part des investisseurs par rapport à avant. Peut-être que les valos ont un petit peu corrigé et ce n'est pas plus mal. Mais grosso modo, moi, je m'attendais quand même à un premier trimestre compliqué, identique à fin 2022, et il n'en est rien. Premier trimestre 2023, en tout cas pour nous, il a été très actif, à la fois en deal flow entrant, en intermédiation avec les angels, en investissement de notre propre part. Donc finalement, j'ai l'impression que 2023 ne sera pas aussi noir qu'on aurait pu nous faire croire.
Moi, j'entends beaucoup d'experts en ce moment en France dire que les entrepreneurs et les startups françaises manquent d'ambition. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, c'est peut-être partiellement vrai, ça dépend, on peut pas faire de généralité, il y a des entrepreneurs extrêmement ambitieux chez nous. Ce qui est compliqué, je trouve, en France, c'est que on est à la fois un pays relativement grand, mais pas un pays tout petit comme la Suisse ou comme la Belgique, je parle tout petit en population, hein. Mais on n'est pas géant comme les US ou comme l'Inde, 1,5 milliard d'habitants, ou la Chine. Donc on est entre les deux. Donc le problème, c'est que notre marché intérieur, il est pas mal. Il est en fait, il est presque suffisant pour faire une boîte sympa, mais il est pas du tout suffisant pour faire une boîte incroyable d'une taille exceptionnelle comme un Stripe, tu vois. Évidemment, tu peux pas faire un Stripe que sur la France. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est aller au-delà des frontières plus rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, les petits pays comme Israël, Belgique, Suisse, etc., ils l'ont compris parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Leur marché intérieur, il est tellement petit, ils doivent être international from scratch dès le début. Nous, notre problème, c'est que le marché intérieur, il est pas mal. Et donc, parfois, on se laisse un peu porter pendant 3-4 ans sur le marché intérieur avant d'aller international. Or, tu regardes en Inde, les mecs, ils se posent pas de questions. Ils sont sur le marché indien, mais évidemment, ils sont aussi sur le marché US dès le jour 1. On a vu des boîtes, elles ont 60% de leurs clients aux US, 30% en Inde et 10% dans le reste de l'Asie, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas encore trop le cas chez nous. Il faut que ce soit plus le cas chez nous, qu'on soit internationaux dès le départ. Il y a évidemment un problème de langue. Hein. On sait bien qu'on n'est pas les meilleurs en anglais, on n'a pas la meilleure formation en anglais, etc. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement, tu as raison, une histoire d'ambition, une histoire de... On a des très très bons talents, on a plein de choses, enfin la BPI fait un travail formidable, les VC, l'écosystème, enfin, je pense qu'on a tout pour réussir, il faut maintenant qu'on passe un step, effectivement, et c'est un peu d'ambition et un peu aussi d'autres choses.
Du coup, toi, c'est vraiment un conseil que tu donnes de s'internationaliser, aux entrepreneurs.
Oui, si, en fait, si ça fait sens sur leur marché, tu vois, je donnerais pas ce conseil à quelqu'un qui lance un Doctolib, parce que Doctolib, c'est d'abord le marché de la santé en France, c'est énorme, tu vois, et encore, je dis ça, ils sont en train de s'internationaliser, ils sont en Allemagne, et à part, je crois que ça cartonne, etc., mais si tu veux, aujourd'hui, quelqu'un qui se lancerait sur un marché comme ça de la santé, je lui dirais, écoute, le marché de la santé en France, il est tout à fait assez suffisant pour faire une grosse boîte, bon. Par contre, tu me dis, je lance, je sais pas, une fintech ou je lance un service en ligne, je sais pas, de d'hébergement de podcast. Mais si t'es pas international dès le day one, c'est con. C'est franchement con parce que ça te coûte quoi? Tu vas traduire un site, ça te coûter que dalle.
Non, ça c'est intéressant. Je pense que il faut peut-être que ce qui nous manque, c'est justement de rendre accessible ce saut vers l'étranger. Où on a, c'est vrai qu'en France, on a aussi un peu cette culture de consolider ses bases.
Oui.
Donc, on aime bien être fort à un endroit avant d'aller voir quelque ouais. chose d'autre. Et t'as ça peut être raison. Un frein.
Et tu as tout à fait raison. Mais je pense que c'était vrai dans le business traditionnel. C'était un peu la stratégie des nénuphars où on ouvrait Bordeaux. Et on saturait Bordeaux. Ensuite, on ouvrait Lyon. Ensuite, on saturait Lyon, etc. etc. Mais ça, c'est vrai dans le business brick and mortar, dans le retail physique, etc. Mais en fait, dans le digital... Pourquoi tu vas t'arrêter aux frontières? Enfin, ça n'a pas de sens, en fait.
Alors, question un peu différente, parce que donc, tu nous as expliqué ton modèle et finalement, ça, c'est un modèle un peu hybride. Mais tu penses quoi du crowdfunding?
Alors, le crowdfunding, j'en pense plein de choses. D'abord, c'est vieux. C'est pas si récent que ça. Ça a une bonne quinzaine d'années. Il y a plein de formes de crowdfunding. On a vu des crowdfunding au début qui étaient pas trop sur l'equity, qui étaient plus sur de la pré-vente. Avec l'exemple super connu qui est Kiss Kiss Bang Bang, qui était quand même un truc assez génial et novateur à l'époque et tout. Après, on a vu aussi pas mal de plateformes de lending, de prêts, de particuliers à entreprises, etc. Il y a eu beaucoup de boîtes qui se sont créées là-dessus. Il y en a beaucoup qui se sont plantées. Je pense qu'il en reste une ou deux de sérieuses et de solides aujourd'hui. Et puis, sur la partie equity, j'ai l'impression qu'il y a eu pareil. Il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a eu une première vague. Et je pense qu'il n'y en a quasiment aucune qui a tenu, à part WeSeed peut-être, qui était, je crois, la première en 2007 à Toulouse. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la deuxième ou troisième vague, qui sont beaucoup plus professionnels, notamment parce qu'ils créent des SPV pour chaque deal, notamment parce qu'ils sont un peu plus sélectifs sur les deals, etc. etc. Et aussi parce que je pense que maintenant, tu vois, des émissions comme « Qui veut être mon associé ?», etc., etc., ça a vachement vulgarisé la pratique d'investir dans les sociétés et c'est tant mieux. Je pense que là, encore une fois, sur l'éducation en France, bon, on n'est pas bon en anglais, on n'est pas bon non plus en culture financière, culture économique. Et je pense qu'on est un peu moins mauvais qu'avant grâce à ces émissions, grâce aux plateformes de crowdfunding, grâce à tout ça. Donc, je pense que c'est une très bonne idée à la base. Il y a eu à boire et à manger pendant des années. Et je pense que maintenant, ça s'est plutôt bien structuré, bien professionnalisé. Sur l'immobilier, c'est souvent des grosses réussites. Et sur les entreprises, bah, y a quand même quelques belles boîtes qui ont levé sur des plateformes de crowdfunding. Par exemple, une boîte comme Luni, une boîte aussi comme Revolut qui avait fait un crowdfunding hein, au début. Et donc, je pense que maintenant, on est arrivé à un niveau où c'est plus sérieux, c'est plus professionnel et c'est tant mieux.
Alors, Corentin, pour terminer, une dernière question. Qui tu nous conseillerais d'aller interroger pour le podcast, une personne que tu trouves assez exceptionnelle et qui t'a marqué dans cet écosystème startup VC?
Bah, écoute, par exemple, je pourrais te recommander une personne comme Nima Karimi, le fondateur de Silver, qui est une très 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 belle startup qui est active en fait dans le, bah, dans le, on va dire que c'est une fintech. Nima, pourquoi je trouve que c'est une super personne à interviewer? Parce que d'abord, il est très expérimenté dans les startups. C'est sa troisième société, en tout cas. Les deux premières ont été des succès. Et cette troisième est en passe de devenir un très beau succès aussi. Donc, il connaît bien l'écosystème, il connaît bien l'entrepreneuriat. Et c'est une personne très posée qui, pour le coup, répond exactement à la description que je faisais tout à l'heure de dire, OK, voilà ma stratégie, voilà ce que je vais faire. 3 mois après, bah, c'est exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc ça, c'est vraiment une personne, je pense, intéressante à interroger.
Merci beaucoup, Corentin. On arrive au terme des 30 minutes de l'interview. Donc, écoute, je voulais te dire que c'était super intéressant d'avoir eu l'opportunité de plonger dans ta tête et de comprendre finalement comment tu raisonnes quand tu dois sélectionner des startups, comment tu jauges les entrepreneurs. Ton retour d'expérience et tes conseils pour les entrepreneurs sont hyper pertinents, donc je suis sûr que ça va aider notre communauté à déjà lever des fonds plus rapidement et plus efficacement, et ensuite à mieux communiquer avec leurs investisseurs aussi.
Super, bah merci beaucoup pour l'invitation, ravi.
Merci Corentin, merci pour toutes ces précieuses infos. Si nos auditeurs ont aimé cette interview et qu'ils veulent te contacter, ils peuvent bien sûr te joindre et entrer en contact avec Super Capital. Est-ce que tu as un petit mot pour eux peut-être et pour qu'ils puissent accéder à toi de manière plus facile?
Une très bonne manière, c'est de venir me voir sans aucune arrière-pensée immédiate, c'est-à-dire quand tu n'es pas du tout en process de levée, tu vois, quand tu es très loin de ça. Je suis ravi de discuter toujours avec des entrepreneurs, tu vois, un quart d'heure, etc., à un moment qui n'est pas forcément un moment où on va, nous, pouvoir se positionner ou pouvoir investir ou pouvoir accompagner, tu vois. C'est toujours bien de pouvoir discuter de manière désintéressée des deux côtés.
Super. Bah, Corentin, Mégane, je vous dis à très bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre pour découvrir d'autres personnalités inspirantes dans le pitch par Shareable. À très vite.
Merci, Joseph.
Salut.
Ciao. Bye.